Je vais laisser le temps à tout le monde de s'installer. Déjà, je vous remercie d'être venu à cette conférence sur l'utilisation de la communication non violente dans le cadre de l'agilité. Pour débuter, je voudrais remercier l'ensemble des sponsors et des partenaires. Ici à Caen, comme vous l'avez constaté, toute cette journée est gratuite. Elle ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas tous ces partenaires et tous ces sponsors. Donc c'est important aussi d'avoir de la gratitude pour ça. Je voulais aussi remercier vraiment chaleureusement toutes les personnes de l'association et des bénévoles qui ont organisé en fait cet événement et qui m'ont invité en fait à venir. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une super organisation. Et moi, je viens de Rennes et en fait, tout était vraiment très, très bien géré. Donc, je voulais vraiment les remercier pour ça. Et je voulais aussi remercier l'ensemble des personnes qui m'ont permis en fait d'arriver, de faire cette conférence aujourd'hui. En premier lieu, il y a Bérangère Baglin en fait qui est à Rennes et qui enseigne en fait la communication bienveillante. Alors communication bienveillante parce qu'en fait elle utilise à la fois l'outil de la communication non violente, la CNV, mais elle utilise aussi la méthode ESPER de Jacques Salomé pour ceux qui connaissent éventuellement. Et donc elle allie en fait ces deux méthodes et c'est elle qui m'a formé en fait. À ça, donc je la remercie vraiment chaleureusement. J'ai quelques flyers s'il y a des gens qui sont intéressés. Je remercie aussi un coach agile dans mon entreprise qui s'appelle François-Xavier Macaire, parce qu'en fait c'est grâce à lui que j'ai commencé en fait à faire des conférences. Au départ j'en faisais dans mon entreprise et puis il m'a dit mais pourquoi tu proposes pas ça? Il y a plein de gens dans l'agilité pour qui cet outil on pourrait être très utile. Donc j'ai commencé à Laval, puis Rennes, puis Caen, etc., etc. Donc je le remercie vraiment chaleureusement aussi. Et puis je remercie trois autres personnes qui m'ont permis en fait de vraiment l'intégrer dans ma vie. C'est à la fois ma compagne et mes deux enfants. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'en fait, là je vais vous faire une présentation sur des outils, des process, etc. Parce qu'à un moment, il faut bien arriver à expliquer, donc utiliser le mental. Mais ce que je vous engage vraiment à faire, c'est de le vivre. Sinon, vous passerez à côté du processus en fait. Et pour le vivre, il faut l'expérimenter. Avec des fois où ça fonctionne, des fois où ça ne fonctionne pas. Et pour ceux qui ont des enfants, moi j'en ai deux. Et je peux vous dire qu'ils m'aident à bien travailler. Donc voilà pourquoi je les remercie. Alors je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Philippe Gabriel. Je suis donc le père de deux enfants qui m'accompagnent justement dans ce processus de CNV. C'est eux qui m'ont donné l'envie. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer dans ma manière de communiquer avec eux? Quel exemple je pourrais leur donner? Et donc je suis allé naturellement vers la communication non violente. Et ce qui m'intéresse dans la vie, en fait, c'est arriver à être le plus authentique possible, à être moi-même. Donc il y a une période de ma vie où je me suis dit, tiens, ça m'intéresse tout ça, j'aimerais essayer le développement personnel. Donc j'ai commencé à faire différentes choses. Puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me convenait pas, parce qu'en fait, ce que je cherche, c'est justement pas être moi-même, enfin être moi-même et donc pas être dans les personnages. Et malheureusement pour moi, je me suis rendu compte que finalement, le développement personnel ne faisait que continuer à développer ma personnalité, donc ce que je ne veux pas, puisque j'essaie d'être justement moi-même et pas tous ces personnages. Et donc, je me suis plus intéressé à des outils que j'appellerais de dépouillement personnel, des choses qui permettent justement de me dépouiller tout ça, et la CNV fait partie de ça. Dans le cadre de l'agilité aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que je fais de l'informatique, je travaille dans une société de services qui s'appelle Thales Services, qui est à Rennes. Donc, je pilote des équipes, je facilite des équipes dans le développement mobile. Donc, parfois, j'ai un rôle de Scrum Master, de Product Owner, et à côté de ça, j'essaie de développer l'agilité, en tout cas tout ce qui tourne autour de l'agilité dans mon entreprise, et aussi la communication non violente. Et dans l'agilité, ce que j'ai bien aimé, c'est quatre valeurs à laquelle je crois profondément qui sont représentées sur le transparent par des images. L'image à gauche, ça représente pour moi l'authenticité. Celle qui est juste à côté, c'est c'est la bienveillance. En dessous, c'est le partage et à côté, c'est l'entraide. Et ce sont quatre valeurs qui, pour moi, sont importantes. Et dans l'agilité, je les retrouve. Et c'est pour ça que je suis allé dans l'agilité. Alors, je vais commencer par vous parler d'une étude. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Robert Waldinger. C'est un Américain. En fait, il est psychiatre. Et il est le quatrième directeur d'une étude qui a démarré en 1938 à Harvard. En 1938, des chercheurs d'Harvard se sont dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de suivre un échantillon de personnes toute leur vie? Et quand on disait suivre, c'était à la fois d'aller les voir régulièrement, de les questionner, de questionner leur famille, de voir un peu quels choix ils ont fait dans leur vie, en termes de travail, en termes de relations, comment ça se passe. Donc, interviewer les conjoints, les parents, les enfants, les amis, la famille. Mais aussi les suivre de manière médicale, c'est-à-dire avoir leur dossier médical, faire régulièrement des prises de sang, des scans du cerveau, enfin, vraiment faire toute cette démarche. Et le but était de se dire, qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux et qu'est-ce qui fait que la vie est belle, en fait? Et la conclusion de cette étude, parce que cette étude, elle existe toujours, alors, comme ça a démarré en 1938, aujourd'hui, c'est plutôt les enfants de ces personnes qui sont suivis. Et la conclusion de cette étude, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est la qualité de nos relations qui fait que la vie est belle. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'à la fois, ça a un impact sur le bien-être, mais que ça a un impact vraiment identifié sur la santé. Donc, je vous ai mis le lien du TEDx. C'est un TEDx qui dure donc 15 minutes, qui est vraiment très intéressant. Donc voilà. Et donc, par rapport à cette conclusion de l'étude, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie d'avoir une vie belle. J'ai envie que ça se passe bien. J'ai envie de. Voilà. Donc, si les relations, d'après cette étude, contribuent à ça, ben, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma communication? Et pour moi, la communication non violente est un des exemples qui permet d'améliorer cette communication. Alors, je vous ai fait une petite cartographie de la CNV. En fait, le but de cette cartographie, c'est juste pour dire que la communication non violente, ça touche beaucoup de choses, on travaille de nombreux aspects. Et dans une conférence comme celle-ci, on ne peut pas tout aborder. Donc, j'ai essayé d'aborder ce qui me paraît la base. Et après, je vous engage, si ça vous intéresse, à la fin, je donnerai des exemples d'ouvrages. Donc, à la fin, si ça vous intéresse, vous pourrez aller plus loin. Quand j'ai commencé à préparer cette conférence, je me suis dit, bon, ça dure 1 heure, les gens vont avoir plein d'informations, je passe en fin de journée, les gens sont peut-être fatigués. Qu'est-ce qui, pour moi, était vraiment très important? Quelles étaient les 3 choses qui, pour moi, étaient tellement importantes que je me disais, voilà, c'est vraiment, si les gens sortent de cette conférence, je serais vraiment satisfait de ma journée, de mon déplacement, si ces gens arrivaient à se souvenir de ces 3 choses clés. Et donc, les 3 choses clés, pour moi, c'est l'outil OSBD, alors on verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Se rendre compte qu'une émotion, en fait, c'est un besoin qui est non comblé. J'expliquerai un peu plus après pourquoi. Et le dernier, c'est que dans l'agilité, l'humain et les communications sont vraiment au cœur de l'agilité, donc c'est vraiment fondamental. Et à chaque fois que sur un transparent, vous verrez le petit cadeau rouge là, qui est indiqué sur le transparent, ça sera pour vous rappeler que voilà, là c'est important. Donc si vous êtes un peu fatigué, sur ce slide-là, vous dites, ah ok, c'est le slide où il y a des choses importantes, je vais porter peut-être un peu plus d'attention. Alors je vais vous proposer un petit exercice. Alors sentez-vous à l'aise hein, si ça ne vous parle pas de ne pas le faire. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes, de vous poser, de fermer les yeux, de ce qui vous parle, et en fait de juste écouter ce qui se passe en vous, ce qui résonne à ce moment-là. Quelle émotion résonne en vous? Donc ce que je vous propose, c'est de prendre 2-3 minutes, fermer les yeux, chacun fait comme ça lui parle, et puis une fois que ces 2-3 minutes seront passées, ceux qui ont envie d'exprimer un peu ce qu'ils ressentent, seront libres de l'exprimer. Donc moi je vais le faire avec vous. Donc moi j'ai l'habitude de mettre ma main à ce niveau-là pour arriver à me recentrer à ce niveau-là. Fermez les yeux. Donc après à libre vous, de vous de le faire comme vous le sentez. S'il y a des gens qui ont envie d'exprimer ce qu'ils ressentent à cet instant, qui se sentent libres. Je ne sais pas si on a d'autres micros. Ou même parler suffisamment fort, ça devrait le faire, je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'exprimer juste ce qu'ils ressentent à l'instant? D'accord, envie de se laisser un peu glisser. Je le répète pour que vous l'entendiez tous. La paix. Un peu stone,
De se
c'est-à-dire.
recentrer, de s'écouter, d'écouter ce qui se passe autour de soi et d'essayer de s'écouter. Ça, comme je rejoins un peu ce que disait la dame, le côté envie de se laisser glisser, bah, c'est ça le côté stone.
Bon, d'accord.
Il y a une espèce de détente qui s'installe.
Intéressant, une espèce de détente qui s'installe. Quelque chose d'agréable.
Voilà, avec une, enfin, pour ma part,
Oui.
des petites choses qui viennent parasiter, c'est-à-dire ce sont les pensées.
Oui, c'est normal. Ok. Est-ce que personne, est-ce que quelqu'un d'autre a...
Faire une pause, se recentrer sur soi.
D'accord. En termes d'émotion, quelle émotion vous avez à ce moment-là?
Moi j'ai de la joie,
Ah.
je m'intéresse à la non-violence depuis longtemps.
D'accord.
Et quand je vois que pour être efficace dans l'entreprise, on a des principes humanistes aussi forts, voilà, je m'en réjouis.
D'accord.
Un mélange de confort et d'apaisement.
D'accord, confort et apaisement. D'accord, de l'excitation à prendre des choses.
L'oiseau, c'est pas bien, mais il a de la haine.
De la haine? D'accord, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Il suffit de l'accueillir déjà. Est-ce que pour vous, c'était difficile de sentir une émotion ou pas? Non? Si? Oui? Est-ce que vous avez l'habitude de prendre un moment et de se dire, oh, allez, où j'en suis là à ce moment-là? Oui? Ah, c'est bien, parce que. Pas trop. D'où l'intérêt. Alors, parfois dans les conférences, il y a des gens qui, il y a très peu de gens qui expriment. Disent, je dis, mais pourquoi vous exprimez pas ça? C'est difficile pour vous? Et les gens me disent, ben, je sens des trucs, mais j'ai peur d'en parler, parce que je n'ai pas l'habitude. On va voir pourquoi après. Voilà, j'ai pris un slide avec quelques exemples de sentiments. Alors, je vais vous parler d'un psychologue, il s'appelle Robert Plutchnik. Il y a différents psychologues depuis de nombreuses années en fait, qui sont intéressés aux émotions, l'interaction de ces émotions, etc. Donc, j'ai pris celle de Plutchik parce que je la trouve intéressante, parce qu'elle, c'est un schéma qui représente à la fois donc, un ensemble d'émotions. Donc lui, il a défini donc, les émotions primaires, je dirais, c'est celles qui sont au milieu. Donc par exemple, joie, confiance, peur. Donc lui, il a fait le choix de ces 8 émotions. Après, il y a d'autres schémas qui existent avec... Peut-être d'autres émotions, mais ce que je trouve intéressant dans ce schéma, c'est que dedans, en fait, il montre à la fois l'intensité. Par exemple, si je prends la joie, avec une forte intensité, on arrive dans l'extase. Avec une intensité plus faible, on arrive dans la sérénité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre l'interaction en fait entre les émotions. Par exemple, ce qu'il explique, c'est que si on a de la joie et de la confiance, on est dans l'amour. Par contre, si on est dans la confiance et dans la peur, on est plutôt dans la soumission, etc., etc. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, on a un certain nombre d'émotions qui sont présentes, avec un degré d'intensité, et puis que ces émotions, en plus, peuvent interagir et contribuer en fait, à générer une nouvelle émotion, et qu'elles sont en nous. Donc là, la photo, c'est Marshall Rosenberg, c'est lui qui est à l'origine de la CNV, il a créé ça en 1970, et en fait, il a développé une méthode de communication. Interpersonnel, qui est assez simple, qui est structuré, et qui permet d'améliorer en fait les relations humaines et de les enrichir grâce à l'empathie. Alors pourquoi il a appelé ça la communication non violente? En fait, c'est en référence à Gandhi, à son mouvement qui. Alors, le terme exact c'était Ahimsa, qui était donc communiquer avec l'autre sans lui nuire. Et comme il avait beaucoup de respect pour Gandhi, il a appelé ça non violent. Dans la communication non violente, ce qui est vraiment important, on le verra plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Alors, l'empathie, pour essayer de résumer, c'est être dans la capacité de sentir là où est l'autre personne en face de nous, sans aucun jugement, sans aucune attente, comprendre ce qu'elle vit, pas se mettre à sa place, sinon ça pourrait être de la sympathie, et en même temps, ne pas, surtout pas essayer de trouver une solution, de juger, etc. C'est vraiment juste faire cadeau de sa présence. Et juste accueillir ce qu'elle est en fait. Et on va le retrouver à différentes reprises. C'est vraiment un élément important dans la communication non violente. Alors d'où vient notre difficulté à communiquer ? Hier soir, j'étais à une conférence à Cancale de Thomas Dazenbourg, qui est, il vit en Belgique, et qui forme à la communication non violente. Et ce qu'il expliquait, il donnait un exemple dans notre éducation, par exemple, quand on était petit. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'on a beau avoir des parents qui sont le plus bienveillants possible, en tout cas qui font de leur mieux, petits, ils ont pu nous dire « J'aimerais bien que tu aies des bonnes notes à l'école, c'est important pour moi. J'aimerais bien que tu ailles te brosser les dents, que tu fasses tes devoirs. » Sauf que la difficulté, c'est que l'enfant, à cet âge-là, lui, ce qu'il capte, c'est « Ok, si j'ai des bonnes notes à l'école, mes parents vont m'aimer. Ok, si je me brosse les dents, tout ce processus. » Et il n'en a pas conscience. Et petit à petit, dans son enfance, dans l'éducation, puis petit à petit quand il grandit, dans l'éducation, dans son travail, ce dont on ne lui a jamais appris, c'est de s'écouter, en fait. C'est de revenir à lui. Qu'est-ce qu'il ressent ? On nous a toujours dit, en tout cas moi ça avait été comme ça, c'est faire attention aux autres, toujours les autres, mais jamais soi, en fait. Et puis surtout pas s'écouter, pas ressentir. L'exercice que je vous ai fait, avant que je fasse de la CNV, bon après j'ai fait la méditation, tout ça, ok, mais avant de faire tout ça, je prenais pas le temps de m'écouter, je me disais, ben, pourquoi m'écouter, enfin, c'est quoi l'intérêt, quoi. Et en fait, toute cette difficulté, elle vient de là, en fait. C'est que, comme on s'écoute pas, on sait pas où on en est, on se retrouve avec quelqu'un qui est dans le même schéma que nous, on arrive en interaction, et comme on n'est même pas conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on est, etc., ben, l'autre réagit, on réagit aussi, et puis ça devient frictionnel, et puis en fait, on répond à aucun besoin, et la communication, ben, en fait, elle fonctionne pas. Que ce soit dans le cadre personnel, dans nos relations de couple, avec des enfants, avec des amis, dans le cadre du travail. Et donc le but de la communication non violente, c'est peut-être de réapprendre à communiquer. Alors la communication non violente peut servir, pour moi, à mon sens, dans trois situations. La première, c'est uniquement pour soi. C'est de se donner un moment, un temps, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie, pour se poser, c'est un peu ce qu'on avait commencé à faire là, se poser, de se dire, bon, qu'est-ce qui m'anime à ce moment-là ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis en colère ? Et qu'est-ce qui se passe ? Prends vraiment ce temps. Ça permet, avant de rentrer en contact ou en relation avec l'autre, d'être déjà conscient de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Savoir si, aujourd'hui, je suis fatigué, petite tension, voilà. On sait qu'on a ça. Et faire ce travail, c'est super important, parce que quand vous allez rentrer dans la relation avec l'autre, on arrive à la suite. La deuxième partie, donc, c'est la compréhension et l'acceptation de notre message, c'est-à-dire être dans la capacité d'exprimer à quelqu'un de manière bienveillante ce qu'on vit et d'arriver à transmettre ce message. Et le troisième axe, c'est vraiment favoriser le dialogue avec la personne en face de nous, quelle que soit sa manière de s'exprimer. Elle peut être en colère, elle peut être peut-être désobligeante, c'est-à-dire, ok, il y a cet aspect en elle, mais est-ce que je me focalise sur sa colère ou sur ce qu'il y a derrière ? Et en plus, si j'ai eu le temps avant de clarifier en moi ce qui se passe, j'arrive à faire abstraction. J'arrive à me dire, ok, il est en colère, mais ce n'est pas de ma faute. Là, aujourd'hui, je suis là, j'arrive à faire cette abstraction parce que je sais où j'en suis. Et donc, pour moi, ce sont vraiment trois cas d'application. Donc, c'est soit un travail uniquement avec soi, soit arriver à transmettre une information à quelqu'un, soit recevoir une information de quelqu'un. C'est vraiment les trois cas d'application de base. Pour répondre à tout ça, il y a trois processus. Le premier, on en a déjà parlé, c'est l'auto-empathie. C'est être capable de sentir là où on en est, de ce qu'on vit, quels sont nos sentiments, quels sont nos besoins à ce moment-là. La deuxième, c'est vraiment être le plus honnête dans sa communication. Donc ça nécessite quand même déjà d'avoir fait un travail d'auto-empathie avec soi, et donc d'être capable d'exprimer à l'autre, qui est en face de nous, avec qui on est en relation, arriver à lui exprimer, voilà, aujourd'hui, je me sens comme ça, ou quand tu me dis telle chose... Ben je sens ça, parce que moi j'ai besoin de telle chose. Donc arriver à l'exprimer de manière le plus simple possible, le plus authentique possible, de manière le plus bienveillante possible. Et troisième processus, c'est d'être dans l'empathie, c'est-à-dire accueillir l'autre dans ce qu'il est. Il a droit d'avoir comme moi, il a des besoins, il a des sentiments, des besoins, et reconnaître ça chez lui. Et ôter en fait tous les aspects extérieurs, c'est mon chef, il me parle de manière agressive, etc. Ok, c'est présent. Je ne demande pas de faire abstraction, mais de ne pas se focaliser dessus. Parce que si vous vous focalisez là-dessus, vous perdez le lien avec la personne. Et en communication non violente, ce qu'on dit toujours, l'objectif, on s'en fout, en fait. On ne le connaît même pas, l'objectif. C'est-à-dire, soit on est dans le mental, et puis on va chercher des choses, mais le vrai objectif, on ne le connaît pas. Ce qui est super important, c'est garder le lien avec l'autre. Et garder le lien, c'est arriver à lui exprimer ce qu'on vit et aussi être allé sur sa montagne à lui. Qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il sent en ce moment-là? J'en sais rien, je le questionne, j'essaie de comprendre ce qu'il vit. Et qu'il y ait ce dialogue ensemble qui permet d'avoir cette relation. Dans la communication non violente, on utilise souvent ce qu'on appelle le bonhomme OSBD. Donc là, si vous avez bien vu, il y a un petit cadeau en haut à droite. C'est pour vous rappeler qu'en fait, ce bonhomme, il est, moi je le trouve simple. On s'en souviendra assez rapidement. Alors pourquoi OSBD? C'est O pour observer, mais observer sans évaluer. S pour sentiment, donc exprimer son sentiment, mais en disant je, pas tu, fais ci, etc. On dit souvent en CNV, le tu, tu. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est parler de soi, en fait. Si je dis à quelqu'un, oui, tu, déjà, il va se sentir agressé. Alors si je dis, tu vois, moi, je me sens... Je ne parle pas de lui. Le B, c'est pour besoin. Donc, exprimer un besoin, donc sans parler d'une action. Voilà, j'ai besoin de ça, on ne demande rien derrière. Et pour terminer, exprimer une demande. Mais une demande qui n'est pas une exigence. Donc, on verra tout à l'heure, j'en parle déjà là, mais... Si j'exprime une demande à quelqu'un et qu'il me dit donc que ça me fait réagir, c'est qu'en fait, ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Intérieurement, je voulais qu'il fasse quelque chose. S'il me répond non, c'est ben non, c'est pas possible. Et donc, je vais développer chacune de ces étapes. La première partie, donc, c'est observer sans aucun jugement. On évalue la situation de la façon la plus claire et la plus objective possible. Je vais vous donner un exemple. Vous pourriez dire, alors, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'en fait, Marshall Rosenberg, pour pouvoir illustrer les manières de communiquer dans une relation, il a utilisé deux animaux. Alors, l'animal à gauche, on ne le reconnaît peut-être pas, mais c'est un chacal. Et celui à droite, on le reconnaît un petit peu plus, c'est une girafe. Donc, ce qu'il explique bien, Marshall Rosenberg, c'est qu'il ne dit pas que le chacal, c'est un animal qui n'est pas bien, etc., puis que la girafe, c'est un super animal qui est gentil. Non, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, la girafe, c'est le mammifère qui a, en termes de poids, le plus gros cœur. Donc voilà, ça permettait d'illustrer ce point-là, mais c'est aussi un animal qui est grand, et donc qui voit les dangers de loin. C'est aussi un animal qui a très peu de prédateurs. Alors que le chacal, lui, il est toujours excité, toujours en train de juger, etc. Donc c'est juste une illustration. Et donc, ce que disait aussi Marshall Rosenberg, c'est qu'on a tendance... par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait qu'on ne nous a pas habitués à aller vers nous, ressentir ce qu'on vit, à l'exprimer aussi, parce que des fois on ressent des choses, mais on n'ose pas les exprimer, parce que c'est peut-être pas bien, etc. Ça peut être culturel aussi. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on est tous une girafe, en fait, en nous. C'est l'objectif de la communication non-violente, c'est juste s'en rappeler, en fait. C'est se dépouiller, justement, je parlais d'outils de dépouillement personnel, c'est ça, en fait, c'est de se dépouiller de toutes ses habitudes, toutes ses croyances. Ah, si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Voilà, après, il faut expérimenter, il faut du courage. Je veux dire, moi, la première fois que j'étais dans une entreprise avec un chef assez autoritaire, et puis qu'à un moment, je me suis dit, bon, allez, je prends mon courage à deux mains, et je lui dis, écoutez, quand vous me parlez comme ça, en fait, quand vous me dites tel terme avec un ton très fort, en fait, moi, je me sens vraiment blessé. En fait, je me sens vraiment triste à l'intérieur parce que moi, j'ai besoin qu'on me respecte, j'ai besoin d'être entendu. Et est-ce que ça serait possible qu'on en discute, etc. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? J'ai attendu un petit temps. Et là, la personne m'a dit, ah ben c'est marrant, vous êtes la première personne à me dire ça. Mais je me suis jamais rendu compte. Ah bon, ben, je suis désolé. Enfin, ok, effectivement, d'accord. Et voilà, ça a changé. Mais il faut expérimenter. Et donc, sur cet exemple, vous pourriez dire, tu es mué comme une carpe. Donc déjà, tu es mué comme une carpe, il y a déjà un jugement, ben vous pourriez le dire autrement. Vous pourriez dire, ben depuis que tu es arrivé, tu n'as rien dit. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est factuel, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Un autre exemple, Pierre, tu parles trop. Ben vous pourriez dire, ben durant la rétrospective, alors pour ceux qui ne font pas forcément d'agilité, la rétrospective, c'est un temps qu'on prend après ce qu'on appelle un sprint, c'est-à-dire un temps où on a fait un développement, on a délivré un produit, et l'équipe se réunit avec la personne qui s'occupe du produit, donc ce qu'on appelle le product owner, l'ensemble de l'équipe, et on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ce projet, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Après, ça peut s'appliquer à n'importe quel type de réunion, et donc vous pourriez dire, ben, durant la rétrospective, qui a duré une heure, Pierre a parlé pendant 30 minutes. Un dernier exemple, dans votre vie personnelle, par exemple, quelqu'un peut vous dire, c'est la quatrième fois de cette semaine que tu disputes avec moi. Vous pourriez dire, ben, c'est la quatrième fois cette semaine que tu me dis que tu n'es pas d'accord avec moi. Ce qui n'est pas la même chose. Le terme disputer a déjà une connotation négative, alors que ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Deuxième étape, toujours le petit cadeau, je vous expliquerai à quoi il correspond. Une fois qu'on a observé les faits, qu'on en a parlé de manière objective, ce qui est intéressant, c'est d'exprimer ses sentiments. Qu'est-ce qui nous anime à ce moment-là? Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est tous responsables de nos sentiments. On a tous un ensemble de sentiments et il nous appartient en fait. Quelqu'un va faire quelque chose, ça va nous faire réagir, ça va faire émerger un sentiment, mais par exemple un sentiment de joie, de colère, etc., etc. Mais une personne qui est à côté, lui, ça ne va pas forcément générer le même type d'émotion en fait. Enfin, le même type de sentiment, pardon. Donc c'est pour vraiment dire que se rendre compte que les sentiments, en fait, c'est pas lui qui nous génère le sentiment. Il fait quelque chose, puis nous, ça génère quelque chose en nous, et ce sentiment nous appartient. Et c'est important parce que si à un moment vous avez par exemple un sentiment de colère, parce qu'effectivement si vous avez un sentiment de joie, tout va bien, si vous avez un sentiment de colère, avant, vous pouvez dire « je suis en colère parce que c'est de sa faute ». Non, vous avez un sentiment de colère, mais ce sentiment vous appartient. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, mais c'est quoi ce sentiment que je sens, en fait? En fait, ce sentiment, et c'est ça le petit cadeau, c'est vous imaginez que vous avez un tableau de bord dans votre voiture. Dans votre voiture, des fois, quand vous n'avez pas assez d'huile, pas assez d'essence, il y a un petit indicateur qui s'allume. Et bien, en fait, c'est la même chose avec les sentiments. Un sentiment, c'est un petit indicateur pour vous dire, eh oh, là, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Juste ça, en fait. Par exemple, vous êtes en colère parce que peut-être que le besoin derrière, c'est... Là, j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme. Et c'est tout, en fait. C'est pas donner plus de pouvoir que ça au sentiment. Et pas de s'attacher juste au sentiment, parce que des fois, on s'attache à sa colère, on la nourrit, on la continue, etc. Et puis, ça change rien, en fait. Alors qu'à partir du moment où on identifie le besoin qui est derrière, on va le voir après, on travaille sur ce besoin. Alors, sur les besoins, c'est pareil, il y a eu différentes études. J'ai pris celle de Manfred Maxniff, parce qu'en fait, Marshall Rosenberg s'est inspiré de ses travaux. C'est un économiste qui a essayé d'identifier, en fait, dans son travail, lui, il a identifié 9 besoins humains fondamentaux. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il explique, c'est que ces besoins fondamentaux, quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit la culture, le pays d'où on vient, sur toute la planète, on a tous les mêmes besoins. On a tous besoin, à un moment, d'affection, de protection, de liberté. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, se dire « Ok, moi, j'ai un besoin de ça, 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 ça », l'autre en face aussi, il a le droit d'avoir les mêmes besoins. Pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir les mêmes besoins que moi? Donc, s'il a les mêmes besoins que moi, en plus, si j'arrive à lui exprimer, ben, il va comprendre. Si je lui dis « J'ai besoin de paix », lui, il va dire « Ben oui, je vois ce que c'est, moi aussi, des fois, j'ai besoin de paix ». Et donc, toujours dans le processus de OSBD, on a observé, on a exprimé nos sentiments. On a essayé de se connecter à soi, donc c'est un peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est de se dire « Ok, j'ai tel sentiment, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin ?» Essayer de sentir le besoin qui se cache derrière. Et en fait, on se rend compte que les besoins qu'on a, ils sont totalement immatériels, ils dépendent de rien, ils sont universels, tout le monde les a. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que pour pouvoir satisfaire ce besoin, parce qu'une fois que ce sentiment il émerge, là, cet petit indicateur, il y a un besoin qui dit ben, « moi, je ne suis pas comblé ». Donc, soit vous restez avec ça, puis bon, voilà. Soit vous vous dites « bon, qu'est-ce que je peux faire ?» Ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à combler ce besoin, ben, en fait, il y a plein de stratégies. Je vais vous donner un exemple simple. Une conférence, je demandais à des gens « quand vous avez envie d'être en paix, tranquille, qu'est-ce que vous faites ?» Il y a quelqu'un qui me dit ben, « moi, j'aime bien balader en forêt. » Ok. Il y en a un autre qui me dit ben, « moi, j'aime bien écouter de la musique. » Ok. « Moi, j'aime bien rentrer, faire des câlins à mes enfants. » Ah, d'accord. Et voilà, ou lire un livre. Et donc je dis, qu'est-ce qui se passe là en fait? C'est que le même besoin de paix, de calme, il est comblé par plein de manières différentes. Et qu'est-ce que ça change quand on se rend compte de ça? Ce que ça change, c'est que vous êtes dans une situation. Par exemple, je vais prendre des cas concrets que j'ai pu avoir. Au travail, à un moment, avec un interlocuteur, un client, etc., qui peut-être a eu une journée difficile, un peu agressif, etc. Donc, bon, à un moment, je sens un peu de tristesse en moi, quelque chose. J'essaie d'identifier le besoin qu'il y a derrière et je me dis, ben. Moi, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de reconnaissance, voilà. Et je me dis, il y a plein de stratégies pour les avoir. Donc, je ne vais pas en vouloir à cet interlocuteur, parce que lui, il a aussi ses sentiments, ses besoins, il n'en a peut-être même pas conscience. Voilà, je ne vais pas entretenir quelque chose de négatif envers lui, je vais me dire, ok, j'ai ce besoin-là, où je peux le trouver? Et ben voilà, je peux par exemple prendre un café ou un thé avec des collègues, échanger, et puis voilà, dans un cadre assez bienveillant. Et puis d'un coup, je sens que mon besoin, il est comblé. Et voilà, je suis passé à autre chose. Et ça, c'est important de comprendre que ce besoin, vraiment, il peut être comblé de plein de manières différentes. Des fois, même dans une relation de couple, inconsciemment, enfin moi j'avais vécu ça il y a très longtemps, où j'avais un besoin et je me disais, bon, je rentre, ma journée était dure, c'est à ma femme de combler ce besoin. Parce que là, j'ai besoin d'affection, d'attention, etc. Sauf qu'elle, dans sa journée, bah, elle a peut-être une journée difficile aussi, elle n'a peut-être pas envie, puis peut-être elle a peut-être le même envie que moi. Et donc, ça devient compliqué, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben voilà, je peux l'avoir de plein de manières différentes. Si ma femme n'est pas disponible, ben, mes enfants seront peut-être disponibles. Ou autre chose, ou maladés, ou voilà. Et enfin, une fois qu'on a arrivé à avoir ses sentiments, à comprendre ses besoins, ben, ce qui est intéressant, c'est de formuler une demande. Comme je disais tout à l'heure, une demande, mais pas une exigence. Donc l'exigence, elle est facile à identifier. C'est en fonction de la réponse de l'interlocuteur, s'il vous répond ben non, et que ça vous génère une émotion, un truc qui ne sonne pas correctement en vous, quelque part, c'est que vous attendiez... c'était une exigence qui était derrière, ce n'était pas une demande. Une demande, c'est ouvert. S'il vous dit non, vous dites « Ok, pourquoi ?» Ce qui est intéressant aussi, c'est quand quelqu'un vous dit non, c'est de se poser la question, s'il dit non, à quel besoin il dit oui ? Je vous le refais. S'il dit non, par exemple, je dis « Voilà, j'aimerais qu'on... Est-ce que ce serait possible pour toi de faire ça ?»« Ah non. » Ok. C'est essayer de trouver, par du questionnement, ok, tu réponds non, parce que tu veux répondre à oui à un autre besoin. Un besoin d'être tranquille, un besoin peut-être de temps pour lui, voilà. Plutôt que d'aller contre. Si je comprends pourquoi il a dit non, ben je vais trouver quelque chose en fait qui va à la fois remplir, combler son besoin et le mien. Et donc pour qu'une demande soit... le plus juste possible, je dirais, il y a un moyen mnémotechnique, c'est le terme crapou. Donc crapou pour clair, donc il faut que la demande soit claire, non ambiguë, réalisable, au présent, pas quelque chose qui fera dans un mois ou dans deux semaines, qui soit positive et ouverte. Un exemple concret de tout ça. Alors j'ai pris des exemples donc, par rapport à l'agilité. Donc un sprint, comme je disais tout à l'heure, c'est par exemple quand on fait du Scrum, on dit par exemple, voilà, pendant deux semaines, on réalise un ensemble de fonctionnalités, et au bout de ces deux semaines, on livre un produit qui fonctionne, qui a toutes ses fonctionnalités, qui est donc de qualité, et on fait donc en général une démonstration au client. Donc là, par exemple, vous pourriez dire à un collaborateur, tu es en retard à la démo du sprint, c'est toujours la même chose avec toi. Je ne suis pas sûr qu'il accueille bien. Vous pourriez lui dire, observation, on avait rendez-vous à 9h, il est 9h45. Là, il n'y a aucun jugement. Vous lui parlez de vos sentiments, vous dites, voilà, je me sens fâché et inquiet, parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et d'être rassuré sur le fait que je pourrais compter sur toi à l'avenir. Ma demande, c'est, est-ce que tu serais d'accord la prochaine fois de m'appeler dès que tu sais que tu es en retard. Essayez les deux, vous verrez. Moi, j'ai essayé, ça marche beaucoup mieux du côté droit. Un autre exemple, tu es nul. Alors, tu, déjà, nul. On ne peut vraiment pas compter sur toi. Alors, quand je vois les résultats Sonar, alors Sonar, c'est un outil, quand on fait de l'informatique, qui permet d'analyser son code, voir si c'est de la qualité, etc. Donc, quand je vois les résultats Sonar sur le code que tu as livré, je suis vraiment très inquiet. J'ai besoin d'être assuré, de voir que tu perçois le sens qui a respecté la définition de done. Alors done, c'est le client a dit, voilà, pour le niveau de qualité que je veux, voilà l'ensemble de la checklist. Et j'aimerais que tu trouves du plaisir à fournir le code de qualité. Et je voulais savoir si tu serais d'accord pour que nous prenions un peu de temps pour en parler. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des phrases aussi compliquées. Là, j'ai pris des choses qui sont vraiment, on le verra après dans la fin des slides, qui respecte bien pour qu'on voit bien observation, sentiment, besoin. Mais pour vous dire, on verra à la fin de la présentation, c'est un apprentissage, comme une langue. Au début, quand je parlais comme ça, mes collègues ils me disaient, putain, on voit ce que tu dis, c'est quoi tes besoins, sentiments, tu l'as fait ton truc ou pas, de quoi ils me parlent. Puis petit à petit, parce que j'étais dans l'apprentissage, j'ai essayé de trouver les mots, machin, puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus fluide, et puis voilà, maintenant, je respecte le processus, celui-là, pas forcément dans l'ordre, hein. Des fois on peut dire observation, besoin, sentiment, enfin. Et donc, pour moi, la CNV, j'appellerais ça une danse de la CNV, parce qu'en fait, on a un processus où, alors ça se fait soit d'abord par nous, soit par l'autre, ça dépend de la situation, on dit ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, ça c'est notre côté. Après, on va sur la colline de l'autre, on essaie de comprendre ce que lui ressent, ce qu'il a besoin. Et l'objectif, c'est de trouver une solution qui tienne compte des besoins des deux parties. Et pourquoi c'est une danse? Parce que, par exemple, l'autre personne peut exprimer des choses, donc j'essaie de comprendre ce qu'elle vit au niveau de termes de sentiments, quels sont ses besoins. Okay, j'essaie de bien, donc je reformule pour être sûr que j'ai bien compris. Après, je l'emmène un peu à ma colline en lui disant, voilà, ben moi, je ressens ça, j'ai tel besoin. Et puis, si lui me dit, ah ben non, ah ok, d'accord, t'as dit non. Mais quel est ton besoin derrière? Ok, ton besoin c'est ça. Ah ok, d'accord. Ben, moi, le mien, ça serait ça. Puis à un moment, on arrive à quelque chose qui est ah ok, moi ça me va bien, ça comble mon besoin. Et toi? Ah ouais, moi aussi. Et là, en fait, personne ne sort frustré de ça, en fait, parce que il s'est rendu compte qu'on l'a entendu. J'ai été entendu. On a trouvé une solution qui convient à tous les deux, donc c'est parfait. Alors ça marche pas toujours aussi facilement, mais c'est le processus. Donc là, je vous ai fait un tour assez rapide sur la communication non violente. Sur l'agilité, j'ai essayé de mettre quelques éléments que j'utilise moi personnellement dans mon équipe et que j'essaie de transmettre dans d'autres équipes dans mon entreprise, donc de l'utilisation de la communication violente dans l'agilité. Alors ça, c'est le manifeste agile. Alors je ne vous demande pas de tout lire, parce qu'effectivement, l'objectif, ce n'est pas ça, mais j'ai surligné en fait un ensemble de termes pour bien se rendre compte qu'en fait, dans l'agilité, on le voit, hein, ça c'est vraiment le manifeste qui a été fourni à l'origine, on voit bien travailler ensemble, des personnes motivées, du soutien, de la confiance, un développement soutenable, enfin un rythme de développement soutenable, du dialogue en face à face, devenir plus efficace, du comportement. On se rend compte qu'en fait, les relations humaines dans l'agilité sont vraiment au cœur de ce processus. Donc pour moi, c'est fondamental, je trouve, de pouvoir avoir des outils comme la communication non violente dans l'agilité. C'est vraiment complémentaire, en fait. Après, l'intérêt aussi, c'est que la communication non violente, ça ne sert pas que dans l'agilité. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le Nico-Nico. Alors, TeamMood, c'est un outil. Donc, là, je vous ai mis un exemple d'un tableau dans notre entreprise. Alors, l'idée est assez simple. C'est qu'on identifie ce qu'on veut mesurer. Donc l'objectif, c'est d'habitude, enfin, on a des éléments qui sont des fois difficiles à subjectif, enfin qui sont assez subjectifs et difficiles à mesurer. Par exemple, le bien-être de l'équipe, c'est pas toujours facile de l'évaluer, l'implication de l'équipe. Et donc ce qu'on fait, c'est que on a trois pastilles, donc une pastille jaune, verte et rouge. Et en fait, la pastille permet d'indiquer le degré personnellement, dans une journée, le degré qu'on a intérieurement par rapport à cet objectif. Par exemple, si c'est mesurer le bien-être dans le travail, une pastille jaune, c'est ouais, pour moi, c'était une bonne journée. Non, vert, c'est une bonne journée. Jaune, ouais, ça a été, ça pourrait être mieux. Et rouge, non, c'est vraiment pas terrible. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça permet aux gens de s'exprimer, donc ça donne un terrain d'expression. Après, là, c'est anonyme, donc les gens, le matin, enfin, le soir, quand ils partent, chacun dans l'équipe met sa pastille. Moi, ça permet de voir très rapidement. L'objectif, c'est que ça soit super efficace. Donc, très rapidement, si je vois beaucoup de vert, jaune, je me dis ça va. Je commence à voir du rouge, je me dis il y a un souci. Donc là, j'essaie de questionner des meetings ou autre. Et ça peut être aussi non anonyme. Les gens peuvent exprimer, puis ça permet après moi derrière de dire ah, peut-être que telle personne a un souci. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Et l'objectif de cet outil, c'est tout simplement d'améliorer le point qui n'est pas forcément facile à mesurer. Deuxième point, c'est sur la rétrospective. Donc les rétrospectives, comme je disais tout à l'heure, c'est un moment où on fait le bilan du travail qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui fait que ça pourrait mieux marcher entre nous. Et ce que j'utilise tout le temps, avant de commencer une rétrospective, c'est la directive première en fait, de Norman Cart, qui dit... indépendamment de ce que nous découvrons, nous comprenons et nous croyons sincèrement que chacun a fait du mieux qu'il pouvait, compte tenu de ce qu'il savait à l'époque, de ses compétences et de ses prérogatives, des ressources disponibles et de la situation du moment. Et je demande à chacun, je le répète toujours en début de rétrospective, je demande à chacun de bien sentir ça, pour que, avant que démarre la rétrospective, elle se fasse de manière le plus bienveillante possible, se rendre compte que chacun fait de son mieux, on n'est pas parfait, Et ça évite de démarrer la rétrospective. Oui, ça c'était nul, c'était de sa faute, etc. Quoi. C'est déjà reposer le cadre, en fait. Autre point, c'est le délimiting. Alors en agilité, ce qu'on fait le matin, c'est de chaque membre de l'équipe, donc en général ça dure 10 minutes, il faut que ça soit très rapide, fait le point. Et en fait, par rapport aux trois étapes qui sont classiques dans l'agilité, on en a rajouté deux autres. La première, c'est demander aux gens comment vous vous sentez ce matin ? Avec quoi vous venez ? Et c'est intéressant parce que des gens vont vous dire ce matin, mon gamin était malade, j'ai pas beaucoup dormi, je me sens fatigué, etc. Donc déjà, il a exprimé. Déjà, le fait qu'il ait pu l'exprimer dans l'équipe, déjà, ça lui fait du bien. Puis nous, ça nous permet de dire, OK, aujourd'hui, enfin, ça a été difficile pour lui, et donc on va en tenir compte aujourd'hui. C'est-à-dire que si on doit le solliciter, on fera peut-être plus attention, ou s'il a une attitude peut-être un petit peu plus agressive ou un peu bougon, on en tiendra moins compte parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Et ça, moi, je le mets en pratique pendant systématiquement parce que c'est vraiment intéressant. Après, il y a les points classiques de l'agilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier qui contribue à l'objectif? Qu'est-ce que je ferai aujourd'hui? Et quels sont les problèmes que j'ai rencontrés? Et un point que j'ai rajouté, à force, au fur et à mesure de proposer des choses par rapport à la communication non violente, c'est dire qu'est-ce que vous avez pu observer dans la journée d'hier qui a illustré un cas pour lequel, pour vous, la CNV a apporté quelque chose. Ça permet de sensibiliser les gens en disant est-ce que ça vous apporte quelque chose ou pas? Est-ce que ça, c'est un sens qu'on continue? Parce que mon objectif, c'est pas de les forcer à faire de la communication non violente, c'est de proposer quelque chose et de dire voilà, si ça vous parle, moi je sais que ça me touche, ça me parle, j'ai envie de le partager avec vous. Après, si ça vous parle pas, on fait pas. Mais bon, en général, ça se passe plutôt bien et les gens découvrent petit à petit de nouvelles choses. Un autre exemple, c'est la chaise chaude. Alors la chaise chaude, je l'utilise moi personnellement à des moments comme ça dans le projet et aussi souvent quand un membre de l'équipe va partir, aller sur un autre projet, ça permet de faire vraiment un bilan et que chacun reparte pas justement avec des petits trucs qu'il n'aurait pas dit. Alors il y a plein de manières de la faire. Moi ce que je fais, c'est qu'il y a une chaise devant, qu'on utilise vraiment une chaise, et puis chacun à son tour de rôle s'assit sur cette chaise et chaque membre de l'équipe passe devant cette personne en face. Et alors un exemple, c'est la personne qui est assise, elle écoute chaque personne et puis chacun dit « Voilà, moi ce que j'aime bien chez toi, c'est ça. J'apprécie vraiment ta manière de fonctionner, t'es toujours disponible, voilà. » Mais quelque chose qui est réel, qui ressent vraiment. Puis après il dit « Ben voilà, la chose que j'aime un peu moins chez toi. » Ou la chose que je vois, qui moi, si ça pouvait être amélioré. Et le troisième point, c'est moi personnellement, je me sens disponible pour faire ça, pour t'aider sur le point qui me pose un souci. Et chacun passe comme ça. Et à la fin, une fois que tout le monde est passé, la personne qui était sur la chaise, elle exprime ce qu'elle ressent. Et c'est intéressant parce que à la fois, la personne dit « Ah, je ne pensais pas que toutes les personnes, enfin 4-5 membres de l'équipe, me disent « Ouais, on trouve que je suis disponible. » Il dit « Je ne me rendais pas compte que j'avais cette qualité. Merci de cette gratitude. » Et puis ensuite, il y a les points d'amélioration. Mais en fait, comme il y a eu déjà la gratitude avant, souvent, les points d'amélioration, ils sont présentés, mais de manière bienveillante. Ils disent « Voilà, moi, je me sens ça, c'est pas très grave. » Mais et du coup, la personne, elle l'accueille. En plus, elle a déjà eu de la gratitude. Après, on lui dit « Il y a telle chose. En plus, je peux t'aider pour ça. » Et du coup, ça crée une nouvelle dynamique dans l'équipe. Et en particulier, quand un membre de l'équipe part, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, des sous-entendus, c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc voilà, à essayer. L'écoute empathique, ça, c'est une chose vraiment importante dans l'équipe. Surtout quand on a, enfin moi je sais que quand j'exerce le rôle de Scrum Master, de Product Owner, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de fondamental. Alors j'essaie de trouver une définition de l'écoute empathique, c'est pas évident. Et donc au final, la définition que je donne, c'est le cadeau de ma présence à l'autre sans chercher à faire quelque chose d'autre ou à l'emmener quelque part. C'est vraiment, quand j'écoute des membres de mon équipe par exemple, c'est vraiment, ok, je suis présent, ce qu'il va me dire. J'essaie pas de lui trouver une solution, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. J'essaie juste de comprendre ce qu'il vit, comment il vit, avoir cet espace d'écoute. Et des fois, j'ai des petits trucs dans ma tête, ah oui, tiens, je pourrais lui dire ça. Je les vois, je dis, non, ok. Je laisse partir tout ça, parce qu'en fait, si je suis en train de créer des pensées dans ma tête, en fait, j'ai pas d'espace pour accueillir ce qu'il me raconte. Donc, je peux pas l'écouter. Donc, à chaque fois que j'ai des pensées, des choses comme ça, je dis, ok, elles sont là, pouf. Je laisse vraiment cet espace. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait, être dans cet espace-là, à un moment, l'interlocuteur en face, en fait, il va trouver la solution tout seul. Parce qu'en fait, il va t'écouter, il va dire, ah oui, donc tu te sens triste parce que tu as besoin de ça. Bah oui, parce que tu comprends, il y a ça, puis, ah ok, d'accord. Et tu aimerais peut-être que, bah oui, j'aimerais bien ça parce que d'accord. Et puis, ah ok, d'accord. Ah mais je pourrais faire comme ça, peut-être. Je sais pas, moi, je ne suis pas là pour donner la solution. Bah oui, parce que tu vois, ça me parle parce que machin. Ah ok, d'accord. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait en fait. Enfin, j'ai rien fait. Ce que j'ai fait quelque part énorme, c'est-à-dire j'ai juste réussi à pas être dans mes personnages, le sauveur, il faut que je trouve la solution, ou celui qui sait mieux que l'autre, non mais attends, c'est n'importe quoi ton truc, attends, mais tu sais pas faire, etc., etc. J'accueille juste ce qu'il est, et je lui donne de l'autonomie. Et je trouve que ça, c'est pour ça que dans la CNV, je vous disais tout à l'heure, l'empathie, c'est vraiment au cœur de la CNV. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la communication non violente, là je vous explique, je vous donne des exemples, ça a l'air facile, tout ça. Alors moi, je l'expérimente depuis des années, c'est pas facile. C'est des fois des choses qui fonctionnent pas. On tente, ça marche pas. C'est un travail sur soi, en fait. Parce que l'autre nous renvoie aussi des choses sur nous. Et il y a un livre que je trouve intéressant qui s'appelle « Immunothérapie du changement ». Et en fait, les deux auteurs expliquent que dans notre vie, il y a un ensemble de mécanismes qui se sont mis en place, des comportements. L'objectif de ces comportements, en fait, c'était de nous protéger. Et quand on a... et donc, du coup, on l'a gardé, ce mécanisme-là. Et en fait, quand on est confronté à un changement, donc par exemple, communiquer d'une autre manière, et ben, inconsciemment, on a des résistances intérieures, souvent inconscientes, que eux, en fait, assimilent à... Enfin, apparentent plutôt à des défenses immunitaires. Comme si nos anciennes croyants disaient « Non, va surtout pas là, c'est dangereux. » Lui dis surtout pas que tu ressens que t'es triste et que t'aimerais bien qu'il te parle correctement, etc. Surtout pas. Mais en fait, il faut les accepter. Et petit à petit, quand on prend confiance en nous, ça se fait par étapes, on passe de inconsciemment immunisé, on ne se rend pas compte qu'on se protège par d'anciens mécanismes, on rajoute un moment plus de conscience, on se rend compte qu'effectivement, on a les mécanismes en nous qui, ces petits messages dans la tête qui disent « Non, ne dis surtout pas ça, ne fais surtout pas ça, ou c'est dangereux. » Et petit à petit, consciemment, on se désensibilise, on dit « Ok, je t'ai entendu, petite voix, je comprends, tu avais du sens à une époque. » Aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Tu avais ta place, je te reconnais, mais maintenant, j'ai envie d'autre chose. Et je le fais consciemment. Et à la fin, on est inconsciemment désensibilisé. On ne se rend même plus compte, on a transformé le processus. Et la communication non violente, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous disais, là, je vous donne des cas pratiques, OSBD, etc., mais il faut vraiment l'expérimenter et le vivre. Et ça rentre vraiment dans le cadre des étapes d'apprentissage. On part d'abord du savoir. On essaie de comprendre la méthode, ok, OSBD, savoir dire non, etc., l'empathie, ok. Puis après, on commence à pratiquer, on est dans le savoir-faire. Et le savoir-faire, il vient au bout de quelques temps de pratique. C'est-à-dire qu'on a lu des choses, on a fait des formations, on commence à pratiquer. Puis au bout d'un moment, en fait, on passe du faire à l'être. Et à ce moment-là, la manière de communiquer devient naturelle. On n'est plus en train de se dire, il faut que je dise l'observation. On ne s'en rend même plus compte, en fait, c'est devenu totalement naturel. Pour terminer, je vous donne quelques références de livres. Donc le livre à gauche, alors Marshall Rosenberg est décédé il y a 2 ans, et le livre à gauche, en fait, c'est le livre référence qu'il a écrit. J'ai aussi indiqué, alors il y a 2 autres livres en bas qui sont aussi de Marshall Rosenberg, et je vous ai aussi mis 2 livres que je trouve intéressants, qui sont de Thomas d'Assenbourg, qui est un ancien avocat, qui à un moment a changé complètement sa vie. Il était thérapeute, puis en fait, maintenant, il enseigne la communication non violente. Et ses ouvrages, je les trouve intéressants parce que, par exemple, « Cessez d'être gentil, soyez vrai », c'est dans cet ouvrage qu'il explique, par exemple, les mécanismes enfants. Les parents, même s'ils étaient bienveillants, ils nous ont parlé de cette manière-là, et en fait, ça a créé des mécanismes en nous. Et moi, qui suis papa de 2 enfants, c'était intéressant de me dire, OK, à la fois de... quelque part, de pardonner à mes parents, de les voir d'une autre manière en disant « Ok, ils ont fait de leur mieux, en fait, je ne peux pas leur en vouloir. » Parce que en faisant de la communication non-violente, on comprend nos croyances, nos mécanismes. Puis à un moment, j'ai une étape qui me disait « C'est mes parents qui m'ont dit ça, c'est pas cool. » Puis après, je me dis « Voilà, ils en sont où ils en sont. » Et après, pour moi, ce qui était intéressant, c'est de me dire « Finalement, maintenant que j'ai compris ça, autant que je transmette ça à mes enfants. » Et là, il explique vraiment bien les mécanismes. Donc voilà, c'est des ouvrages. Le petit livre à droite, le livre bleu, c'est un livre pour ceux qui n'ont pas envie de trop lire. Et ça reprend vraiment les grandes notions clés que j'ai abordées là. Et c'est super abordable pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Pour finir, donc, je voudrais vous rappeler les 3 choses clés pour que vous repartiez vraiment avec ça. La première, c'est l'outil OSBD, donc je vous rappelle, observation, son jugement, sentiment, voir ce qui nous anime, besoin, quels sont les besoins qui sont cachés derrière ce sentiment, et la demande qui est l'aboutissement de tout ça. Se souvenir que la prochaine fois, vous allez avoir une émotion de colère, par exemple une émotion désagréable, ne pas partir tout de suite, c'est la faute de l'autre et je vais l'attaquer. Non, non, c'est OK. Quel est le besoin qu'il y a derrière? Essayez petit à petit de rentrer dans ce nouveau mécanisme. Et le dernier, pour les gens qui font de l'agilité, c'est vraiment de se rendre compte que l'humain dans l'agilité et les communications, c'est fondamental. L'agilité, c'est des principes, des valeurs. Et ces principes, ces valeurs, elles ont vraiment du sens si les gens qui sont en interaction dans ces activités arrivent à communiquer de manière plus bienveillante possible en trouvant des solutions qui satisfassent tout le monde, en fait. Voilà, un petit slide pour Gandhi, voilà. Et puis, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, j'avais prévu, je pense qu'il nous reste 10 minutes. Donc, alors, pour les micros, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que quelqu'un... Où je me déplace ou... Je ne sais pas si tout le monde va t'entendre, en fait. Je ne sais pas s'il marche, lui, s'il marche aussi. Je vous remercie.
Merci. Un, deux.
3, 4.
Merci pour votre présentation.
Avec plaisir.
Je voulais revenir sur votre exemple que vous avez pris au début, notamment avec le patron. Par exemple, ce patron qui vous parle d'un ton très autoritaire, qui vous blesse. Donc, imaginons que vous utilisiez toute la CNV pour lui faire comprendre vos besoins, etc. Donc, le patron, avec toute la bienveillance, il vous dit « Oui, je comprends ce que vous voulez dire, je vais faire de mon mieux, etc. » Et imaginons que ce patron, en fait, les prochaines fois, il commence comme au début. Mm-hmm. Alors qu'il a paru sincère, vraiment, quand vous lui avez formulé vos besoins, mais rien ne change. Comment faire pour réparer ça?
Mais en fait, vous avez donné la solution dans votre question. Vous avez dit, je veux qu'il fasse ça, je lui exprime mon besoin, et en fait, moi, je veux rien. Ce qui va se passer concrètement, moi, j'attends rien, en fait, de lui, en tout cas. Lui, c'est sa vie, il l'anime. Après, dans la communication non-violente ou la communication bienveillante, on dit toujours, être bienveillant, ça ne veut pas dire ne pas se respecter. Je ne vais pas me laisser faire, c'est-à-dire s'il m'agresse, etc. Et du coup, dans ce processus, dans ce cas de situation que j'ai déjà vécu, je vois deux situations. La première, c'est quand je sens que quelqu'un arrive avec de l'agressivité, ça peut être mon patron ou quelqu'un d'autre, et qui me parle d'une manière qui va me toucher, où je ne me sentirai pas respecté, à ce moment-là, il y a deux possibilités. La première, soit je m'écoute, je me recentre en moi, et je me dis, est-ce que là, j'ai la ressource pour me donner de l'auto-empathie? Si j'en ai, je m'en donne, je reconnais ce qui je suis, là où j'en suis, ok, et là, je rentre dans un processus. Si je sens que je ne suis pas prêt, je vais lui exprimer ce que j'ai eu à exprimer. Je lui dis, écoute, pour l'instant, là, je me sens trop touché. Pour moi, ce n'est pas possible. Je préfère, pour l'instant, partir. Je souhaiterais qu'on en discute plus tard. Et voilà. Je ne vais pas envenimer la chose. Ce n'est pas de la fuite. C'est juste dire, voilà, là, je me sens... J'exprime quand même. Voilà, quand tu me dis tel mot, donc que factuel, avec un ton très, très fort, etc., etc. Il faut trouver les termes adéquats. Voilà ce que je ressens. Voilà mon besoin, et j'ai besoin vraiment d'être respecté, et là, c'est difficile pour moi, donc la demande, ça pourrait être, je me sens pas suffisamment d'énergie pour en discuter, parce que je suis trop touché, est-ce que c'est possible pour toi qu'on en discute plus tard? Et donc là, c'est pas une fuite, je dis voilà, j'ai posé. Le premier cas qui est, j'arrive à me donner de l'empathie, là, ce que je vais faire, c'est comme je me suis donné de l'empathie, j'ai rien besoin, en fait. Et là, je vais aller sur sa montagne à lui. Je vais lui dire... Ah d'accord, c'est pas me dit oui ce truc-là. Ah, par exemple, il me crie dessus parce que il y a un truc qui est pas fait, et puis il comprend pas, il est paniqué, etc. Là, je peux lui dire, quand tu m'expliques ça, en fait, c'est que tu es inquiet parce qu'en fait, tu as besoin d'être rassuré par rapport au fait que les choses soient faites. Et là, il va dire, oui, tu comprends. Là, ça fait 3 fois que je demande, ça vient pas, etc. Ah d'accord, en fait, donc tu te sens perdu, inquiet, tu manques de confiance, tu as besoin de confiance, en fait. Bah oui, parce que tu comprends. Hein. Puis petit à petit, je vais être dans cette écoute empathique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc en fait, moi, j'attends rien de lui, en fait. Et le fait de rien attendre de lui, inconsciemment, je ne lui mets aucune pression. Je ne suis pas en train de le juger, puisque je n'ai aucun besoin, en fait. Alors c'est peut-être difficile à expliquer, mais pour les gens qui ont des pratiques peut-être énergétique, on va dire, comme du Qigong, enfin moi je sais que pratique ça, ou d'autres choses, intérieurement on sent qu'il se passe des choses. J'ai rien besoin, et l'autre il sent que j'ai rien besoin. Et donc il est libre, et je l'écoute dans ce qu'il vit, etc. Et petit à petit, en fait, le processus va se passer enfin, de manière peut-être inconsciente pour lui, mais ce qu'il a besoin c'est d'être écouté, d'être compris, etc. Et donc si je lui offre cet espace-là, ben, il y a un truc qui va changer en lui, en fait. Parce que je ne suis pas dans une démarche de vouloir le changer. Et là, il va se passer autre chose. Puis peut-être que dans ce processus-là, du coup, il va s'établir un nouveau dialogue. Et puis si une semaine après, ça revient, ben, c'est pas grave. Je continue. C'est-à-dire que je me respecte. C'est-à-dire que si je me sens encore touché, ben, je refais la même chose. Mais je ne cherche rien. Mon but, ce n'est pas que lui change. Je ne veux pas le changer. Par contre, ce que je fais juste, c'est que je respecte ce qu'il est et là où il en est. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question.
Oui, mais je comprends ce que vous dites.
Oui.
Mais ça peut ne pas se régler, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire, mais...
Si, je vois ce que tu veux dire. Ce qui est difficile à expliquer, c'est qu'en fait, c'est quelque chose à vivre, en fait. Effectivement, si tu es dans l'idée, ouais, ça ne va pas se modifier, ça ne va pas changer, tu es déjà dans une croyance. Et inconsciemment, en fait, tu projettes sur l'autre... Ça va pas changer. Je donne un exemple concret qu'on a eu dans notre entreprise. Si on a une personne qui est assez imbu de lui-même, qui est assez prétentieux, il sait toujours mieux que tout le monde, etc. Et puis à un moment, il avait des responsabilités, il en a profité. Et en fait, il y a eu une étiquette qui lui est collée dessus, en fait. Et on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte un jour, il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient dans l'entreprise et qui disaient, alors qu'ils ne connaissaient pas la personne, ils disaient, oh non mais lui de toute façon il est comme ça, de toute façon pff, c'est un chieur, il est rien. Et en fait, les gens venaient avec cet état d'esprit, avec cette personne, inconsciemment, la personne inconsciemment se sentait agressée, jugée comme ça, et continuait donc son processus. En fait, ce qui est intéressant dans l'empathie, c'est qu'en fait, on n'attend rien. Et comme on n'attend rien, on ne rentre pas dans le jeu de l'autre, en fait. Parce que l'autre, il a besoin. Si je continue à être agressif avec lui, ben lui, il dit, ben oui, j'ai raison, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais si en face de lui, il a quelqu'un d'autre, à un moment, qu'il le veuille ou pas, il y a un truc qui va changer en lui. Il faut l'expérimenter. Après, effectivement, tu peux avoir des cas où ça ne change jamais, et là, à un moment, il faut peut-être trouver des solutions. Mais moi, je suis assez confiant pour dire que ben, si on est vraiment dans ce mode-là, l'autre va forcément changer, en fait. Mais on ne met pas de volonté.
Ok, vous avez comblé mon besoin.
D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Je ne trouve pas évident le processus d'écoute.
Est-ce que je vous passe mon micro, peut-être?
Merci. Vous m'entendez?
Oui.
Je trouve pas évident le processus d'écoute empathique dans le monde professionnel. C'est-à-dire que là où vous l'illustriez bien tout de suite, moi j'y vais avec. Enfin, quand je vois ça, je l'exerce en tout cas avec un collègue, j'ai l'impression d'être. J'ai le psy. C'est peut-être un blindage que j'ai qu'il faudrait que j'arrive à enlever, mais je trouve pas évident ce questionnement qui permet d'aller fouiller chez l'autre quels sont les freins, comment il se sent. C'est une image du boulot que j'ai et que beaucoup ont. Je ne sais pas justement si j'en parle, c'est aussi pour en partager avec les gens. Vous comprenez ma remarque, ma question.
Du coup, votre question, c'est quoi exactement?
Ma question, c'est là, on est en théorie, en train d'en discuter avec un maximum de personnes qui ont envie de s'ouvrir à ça.
Oui.
Dans un entretien professionnel demain, que ce soit avec votre supérieur ou quelqu'un de votre équipe, qui n'est pas du tout ouvert sur ce schéma-là,
oui.
Et ben moi personnellement j'ai du mal à rentrer dans ce questionnement empathique qui vise à dire on se met tout nu et puis on rentre dans l'écoute de l'autre. Voilà, j'y attache peut-être un peu des images d'entretien psy, je vous dis tout de suite. Mais,
d'accord.
C'est, voilà, il y a une forme de pudeur. Dans le monde du travail, ça se fait pas, merde. Enfin, ouais,
c'est la résistance, tout à fait. Exactement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a... Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un apprentissage, et comme tout apprentissage et comme tout gros changement, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin de courage et de confiance en soi, en fait. C'est-à-dire que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première fois que j'ai dû dire à, je ne sais plus si c'était une DRH ou un manager assez important, de lui dire, voilà, moi, ce que je ressens, c'est ça, et parce que j'ai besoin de ça, c'est parce que c'est la vérité, en fait. Je n'ai pas envie de mentir, voilà, c'était... Eh bien... Déjà, en moi, il y avait des peurs. Ok, je les voyais, je me disais, ok, elles sont là. Mais soit je continue à être dans le même mécanisme qu'avant, et puis je repars en me disant « Ah, fais chier, merde, pff, je me retrouve avec un truc qui ne me convient pas, et puis si je ne mets pas de conscience, je le reprojette sur un collègue, sur ma compagne, etc. etc. » Et ce mécanisme, j'en veux pas, en fait. Moi, je veux que ma vie soit plus belle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est ma responsabilité à moi. Moi, je ne veux pas changer les autres. Ce que je veux juste, c'est que ça soit mieux pour moi. Pour que ça soit mieux pour moi, si je ne l'exprime pas, l'autre en face, il ne saura jamais. Après, je suis d'accord, ce n'est pas facile. Mais c'est petit à petit. Et après, comme vous le disiez, face à une situation, l'écoute empathique, parce que l'autre, il n'est pas forcément dans ce processus. Hein. Moi, je suis dans une entreprise, c'est le groupe Thales. Hein, donc, j'ai des gens qui sont ingénieurs, qui sont de la défense. Alors, moi, je ne travaille pas dans la défense, mais à la base, ce n'est pas forcément leur créneau, je dirais. Et ben, c'est justement intéressant parce que c'est un terrain d'apprentissage. Et donc, après, quand j'ai des gens en face qui ne sont pas dans ce processus-là, moi, je n'essaie pas de les changer. C'est ce que je disais. J'ai envie que ça se passe mieux pour moi. Et donc, je suis, là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que l'empathie, c'est vraiment compliqué. Enfin, ça paraît compliqué. Mais ce que je veux dire, je vais être plus clair que ça. Avec mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que j'avais une croyance que c'était compliqué. Et en fait, le côté compliqué que j'y mettais, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'avais une résistance, c'était difficile parce qu'en fait, je résistais à ça. Et c'est comme dans ma vie. Hein. Dans ma vie, j'ai eu différentes épreuves, avec des fois des aspects de souffrance. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est quoi cette souffrance que je sens, en fait? Et en fait, cette souffrance que je sentais, c'était juste le temps que je mettais à résister avant de lâcher prise. Et donc, si je résistais une semaine, ben, j'étais dans la souffrance une semaine. Et ben là, c'est pareil, en fait. Cette résistance-là, elle est naturelle. Et après, en fait, Alors après, c'est comme ça que moi, je le vis. Mais pour moi, la communication non-violente, en tout cas l'empathie, c'est vraiment retrouver ce qu'on est, en fait. Et puis y aller, quoi. Et c'est pas toujours facile d'y aller. Par exemple, dans l'écoute empathique, moi, à un moment, je me suis rendu compte que j'avais un côté sauveur. Dans ma tête, au début, j'avais envie de donner des réponses à l'autre. Ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que tu comprends. Mais c'est pas ça, l'écoute empathique. Et ce qui est bien, parce que la vie est bien faite, hein, quand vous faites de l'écoute empathique, en face, si vous êtes dans la volonté de trouver une solution, l'autre, il va réagir. Il va dire, attends, pourquoi tu me donnes cette solution? C'est n'importe quoi. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens. Puis là, je lui dis, merci. Parce qu'en fait, moi, je fais de l'écoute empathique, mais en fait, en face de moi, j'ai quelqu'un qui va m'apprendre, en fait. Et l'écoute empathique, ça va très loin. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les aspects spirituels, mais ça va super loin, parce que c'est vraiment comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est faire confiance à l'autre dans ce qu'il est, sentir qu'il a la solution en lui, en fait. Que c'est un être merveilleux, en fait. Il a peut-être des souffrances, des difficultés, sa journée a peut-être difficile, mais voilà. Après, face à des situations, effectivement, comme je disais tout à l'heure, soit on se sent prêt à être dans l'empathie, et on y va, si on ne se sent pas, on n'y va pas. Hein. Moi, je ne suis pas casse-cou non plus. Hein. Si à un moment, je sens que je ne suis pas dans l'empathie, je sens qu'il y a mon chacal, parce que ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que avant d'avoir fait de la communication non violente, je me suis rendu compte, pourtant je pensais parler bien, je me suis rendu compte que par exemple par rapport à mes enfants, bah, des fois j'étais quand même un gros chacal. Quoi. Et aujourd'hui, ce qui change, c'est le degré. Et puis ce qui change aussi, surtout, c'est que par exemple mes enfants, alors j'ai deux enfants, hein, une fille de 7 ans et un garçon de 10 ans, bah, des fois maintenant ils ont tellement l'habitude, puis bon, enfin, pour ceux qui ont des enfants, moi ils me font travailler dans une journée, je fais pas l'OSBD, alors quand je vois que t'es comme ça, il faut que je trouve d'autres choses. Mais puis là, si ça marche pas, tout de suite, je le vois. Quoi. Si je mets de la volonté, si de l'obligation, si c'est pas une demande, tout de suite, ils vont réagir. C'est ça qui est chouette avec les enfants, parce qu'ils sont pas encore trop pollués, je dirais. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que mon fils ou ma fille, à un moment, ils me disent « Ah, papa, là, tu fais ton gros chacal. » Et en fait, parce que j'étais tellement habitué, en fait, à expliquer que quand ils le voient, ils me le disent. Et là, je fais « Ah, bah merde, c'est vrai, effectivement, bon. » Et le fait qu'ils me le disent, et puis on en rigole, et puis, oups, ça déprogramme, en fait. Alors, j'ai pas ça encore au travail. J'ai pas encore un collègue qui me dit, voilà, Philippe, tu fais ton gros chacal. Mais bon, je sais pas si je réponds complètement à votre question, mais c'est vrai que c'est vraiment pas, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment pas facile. Par contre, je vous entends pas.
Non, juste, oui. Je trouve effectivement que c'est compliqué au quotidien. Enfin, j'imagine que c'est compliqué au quotidien et en pleine action, que ce soit avec les enfants, les collègues et peu importe. Je pense surtout avec les enfants en réalité, effectivement, de mettre en pratique l'OSVD. Alors, quand là, il est en train de me prendre la tête pour tel truc, que moi, je sais que je veux aller là, comment je vais. Vous voyez, l'action, elle va vite, en fait.
Je suis d'accord avec vous.
À un moment donné, trouver le temps de presque se pincer à chaque fois pour dire, attends, on repense à l'OSBD, mais ça prend. Je veux faire le temps que le mécanisme et que le réflexe se mettent en place dans notre tête. Enfin,
je comprends.
Il faut plein de situations.
Je vais vous donner un autre.
Avant de parvenir à intégrer ce réflexe-là.
J'entends bien ce que vous dites. Je vais vous donner un autre exemple concret. Est-ce que vous parlez une langue étrangère? Est-ce que vous parlez une langue étrangère?
J'ai quelques souvenirs.
Bon, voilà. Enfin, les gens qui ont appris une langue étrangère, enfin, moi j'ai appris plusieurs langues étrangères, au début c'était du n'importe quoi. J'étais en train de chercher les trucs, les machins, les... aucune fluidité, quoi. Et puis petit à petit, soit j'étais encore dans des peurs, de jugement, parce que j'ai bossé beaucoup avec des Allemands, et les Allemands ils me disent souvent, bah, nous on parle bien anglais, enfin, tout simplement parce qu'on n'a pas peur de se tromper, on n'a pas peur de. On y va, et puis on n'apprend pas 15 000 mots, voilà. Donc dans la communication non violente, dans une langue, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, dans la communication non violente, au début, il y a plein de trucs, ça ne marchait pas. Quoi. Enfin, ou alors les gens ils disaient, non, c'est n'importe quoi ton truc, là. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un truc un peu olé olé, enfin, c'est bisounours, c'est, tout le monde est gentil, enfin, ça n'a rien ton truc. Quoi. Et là, j'ai eu deux possibilités, c'est de me dire, ouais, j'abandonne, c'est nul. Et en même temps, il y a un truc en moi qui m'animait, parce que les petites fois où il y avait un petit succès, je me suis dit, yes. Un jour, mon fils, je donne un exemple, un jour, mon fils, je le ramène de l'école, et puis il est assis à côté de moi, puis je roule, et puis il me dit, ah, tu sais, papa, aujourd'hui, j'ai fait mon gros chacal. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait des bêtises, du coup, il y a eu un autre garçon aussi qui a été puni, et donc je trouve pas ça cool, en fait. Ah, d'accord. Ben, tu vois, en fait, là, je me sens triste parce qu'en fait, je trouve pas ça très juste. Moi, j'ai besoin que ça soit toujours mon ami. Et, qu'est-ce que t'en penses si, en fait, si je lui écrivais un mot, que j'allais le voir? Et là, je me dis, yes! Là, ce petit truc-là, je me dis, ok. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est quand je fais yes, il y a un truc qui s'anime en moi. Ça nourrit un besoin de partager ça, d'avoir cette relation avec lui. Et tous les cas, même s'il y en a 80% au début, tous les cas où ça marche pas, là, je me reconnecte à ce besoin. Je me dis, ok, je le vois, il y a une difficulté. Mais qu'est-ce que c'était bon quand j'ai vécu ça? Et j'aspire à ça. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord, hein, c'est ce stade, je disais, on a du savoir, au savoir-faire, au savoir-être. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'à partir du moment où ça devient naturel, en fait. Et puis attention, il ne faut pas non plus que ça soit, il ne faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire que moi, j'accepte humblement, des fois, d'être un gros chacal. Ok. Ça m'arrive aussi encore aujourd'hui, je veux dire, avec mes collègues ou avec ma conjointe, avec mes enfants. Mais ce qui change, c'est quand ça arrive, j'en ai conscience. Et soit ma conjointe ou mes enfants me le disent, ou mes collègues, soit à un moment, ben, je le vois, et là, je vais les voir. Puis, ok, je fais observation, besoin. Je dis, voilà, quand il s'est passé ça, ben là, je me rends compte qu'en fait, je me sens triste parce que moi, j'ai besoin que notre relation soit harmonieuse. Et voilà, est-ce que tu acceptes mes excuses? Est-ce que tu... Voilà. J'essaie de transformer ça. C'est ça la différence, c'est vraiment cette prise de conscience. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas simple. Mais c'est aussi compliqué que d'apprendre le japonais et puis de se dire, voilà, au début c'est n'importe quoi, le japonais en fait ne comprend rien du tout à ce que je dis. Et puis petit à un moment, le jour où, je sais pas si vous vous souvenez de la première fois où vous avez pris une langue étrangère, vous partez dans le pays, et puis que vous arrivez à dire quelque chose et que personne vous répond, vous dites, ouais, super, j'ai l'impression d'avoir avancé. À la CNV, c'est pareil. Est-ce que je réponds à votre question? Oui? Il y avait une question.
Pardon. Oui, merci. Je veux juste dire que les gens qui appliquaient ce genre de technique, souvent, ça crée un malaise dans la conversation qui rêve un peu de la manipulation. Alors peut-être que parler normalement, c'est faire le bon chacal, mais moi j'appelle ça parler cash. Et finalement, quelqu'un qui commence à parler comme ça, les gens font des écoutes actives, qui répètent ce que je dis et qui reformule et tout ça, où est-ce qui m'emmène là elle n'est pas directe, elle passe par je ne sais pas où, mais pas par le bon canal. Et je pense que ça nuit beaucoup à la relation.
Est-ce que ton besoin, là, ça serait d'être rassuré par rapport à, au fait que la communication. Que
quand
d'être,
je parle à quelqu'un et qu'il pense.
Tu as l'impression d'être manipulé.
Voilà, c'est d'accord. Quand j'utilise à quelqu'un et que je vois qu'il utilise ces techniques, je me dis ben, pourquoi, quel besoin y a-t-il d'utiliser des techniques? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce qu'il relève de la manipulation,
d'accord.
Puisqu'il veut me faire faire quelque chose, il veut améliorer, c'est pas ça du tout, hein, manipulation au sens du terme. Et pourquoi utilise-t-il cette technique au lieu de dire simplement ce qu'il a à me dire?
Alors pour répondre à cette question, je dirais qu'en fait, ce qui est important quand tu parles à quelqu'un, quel que soit l'outil, là je parle de la communication non violente, qui est un outil, il y en a d'autres, c'est quand tu exprimes quelque chose, en fait, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est quelle est ton intention en fait? C'est quoi que tu veux à l'autre? Si tu veux le manipuler, le contrôler? Alors ok, après tu peux utiliser la CNV, ce que tu veux. Ce qui est important, c'est quelle est ton intention. Moi, quand j'utilise la CNV, mon intention, c'est pas de le manipuler, c'est pas de le changer. Moi, quand je pratique de la communication non violente, j'ai un besoin fondamental que j'essaie de combler, c'est d'être moi, d'être authentique, de dire ce que je sens pour que l'autre comprenne où j'en suis, quels sont mes besoins.
C'est pas mon propos. Hein.
Pardon.
Indépendamment du but que tu utilises, je veux dire, l'utilisation de ces techniques nuit quelque part à la relation, parce que souvent, elle apparaît comme une forme de manipulation et crée un malaise entre les interlocuteurs. Bien entendu, en vertu de ce que nous venons d'apprendre.
Est-ce que le malaise n'est pas ressenti par, du coup, par celui qui ne sait pas, qui ne pratique pas la CNV, plus que
qu'importe,
par celui...
qu'importe, il est là.
Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un besoin pour le coup qui
n'est pas... Ce qui est intéressant, c'est que si toi, personnellement, tu vis ça, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait. Quel est l'indicateur derrière ça ? Parce que tu ressens quelque chose, un sentiment de qu'on te manipule, que... C'est ça, en fait, c'est creuser qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Parce que la personne en face, elle peut faire autre chose que de la CNV. Je veux dire, il y a d'autres outils. Elle peut faire de la PNL et puis utiliser la PNL pour contrôler. Enfin, moi, enfin, personnellement, pour moi, la communication non violente, exprimer ce qu'on vit, ça nuit pas à la relation. Ça permet juste de faire un truc simple. C'est la relation, avant, elle était à ce niveau-là, au niveau mental. Moi, mon objectif, c'est qu'elle passe à ce niveau-là. C'est tout.
Qui est le niveau quoi ?
Au niveau du cœur, en fait. Moi, j'essaie juste de dire, pas en train de penser les croyances, les machins. Pardon ?
Il y a plein de trucs à ce niveau-là.
Oui, je suis d'accord. Mais je comprends votre inquiétude, hein, qu'il peut y avoir ça, mais c'est intéressant, du coup, de l'exprimer à l'autre, en lui disant, voilà, toi, quand tu me parles, quand tu m'utilises tes termes, etc., ben, moi, j'ai le sentiment, en fait, que tu te fous de moi, en fait, que tu me manipules, et voilà, parce que moi, j'ai besoin d'être en confiance, et qu'est-ce que tu en penses ? C'est intéressant parce qu'en fait, outre la communication non violente, quand il y a quelque chose comme ça qui émerge, c'est intéressant d'en discuter en fait. Pour que la croyance, parce qu'il y a peut-être une croyance derrière, et pour pouvoir justement aller au-delà de cette relation, enfin aller plus loin. Je ne sais pas si ça répond.
Oui, non, on est tout à fait dans le sujet. Il faut aller plus loin, introspecter, regarder ce qu'il y a derrière. Passe-moi le sel.
Mais je peux comprendre que ça puisse être déstabilisant au début quand on n'a pas l'habitude de communiquer de cette manière-là.
En fait, moi, ça me fait penser aux quatre accords Toltec.
Les accords Toltec, oui.
Et je pense que par rapport à une réunion avec son supérieur où on se prend des choses qu'on n'aimerait pas entendre et qu'on entend, c'est savoir aussi se dire, ben, d'abord de rester avec une parole impeccable, c'est-à-dire de chasser les mauvaises paroles qui pourraient rentrer, ne pas rentrer dans la communication violente, et puis aussi de se dire, je ne vais pas en faire une affaire personnelle, parce que ce qu'il me dit, c'est ce qu'il ressent, mais moi, je ne me sens pas du tout concernée par ce qu'il dit, parce que je me sens blessée, et c'est de pouvoir le dire, et là, OSBD peut m'aider, et puis aussi, ne pas interpréter ce que ne dit pas l'autre, ou ce qu'il veut dire en fait.
Faire des suppositions, quoi.
Voilà, après, tiens, son mieux, quoi.
C'est ça.
Faire de son mieux, en toutes circonstances, faire de son mieux. Et pas faire un mieux qui soit beaucoup trop haut, se faire un mieux qui soit à la mesure de nos capacités.
L'objectif du quatrième accord, c'est en fait se dire, ok, parole impeccable, pas faire de suppositions, etc. C'est bien, mais il faut accepter des fois qu'on n'y arrive pas. Et la CNV, c'est ça, hein, c'est un moment de se dire, si ça ne marche pas à 90% du cas, ok, mais est-ce que j'arrête ou pas ? Les 10% qui m'ont animé, là, qui m'ont montré un truc que je trouve intéressant, est-ce que j'ai pas envie de les revivre ? Puis après, ça passe à 20, à 30, ça reste dur. Mais quand ça passe à 50, 60, c'est fun. Et moi, mon objectif, c'est que ma vie soit fun, quoi, et que mes relations avec les gens elles soient le plus juste possible, tout en continuant à me respecter. Ça, j'insiste beaucoup, parce qu'au début, les gens me disaient « Ouais, tu fais de la communication non violente, donc en fait, tu te rabaisses, machin... » Non, justement, je suis connecté à mes besoins, à mes sentiments, je suis capable de dire « Non, là, c'est stop, là !» Donc soit je l'exprime, enfin j'ai assez d'empathie, puis je vais vers le chemin de l'autre pour comprendre, soit j'en ai pas, et puis je dis ok, là stop. Mais avec le plus de bienveillance possible pour pas rajouter de l'huile sur le feu, pour pas entretenir justement l'autre dans sa réaction, quoi.
Moi je voulais juste dire que souvent quand on
est... Ah, c'est l'heure. Dernière question du coup ? Ok, dernière question parce qu'on me dit que c'est l'heure, donc allez-y.
Ou alors, clairement, ce n'était pas compatible avec la forme d'entreprise. Et comme je rejoins le monsieur ce qu'il disait tout à l'heure, tout de suite, on nous verrouillait cette façon de penser. Et surtout, il ne fallait pas la communiquer aux autres. Et à ce moment-là, vous êtes positionné dans quelque chose qui est très difficile pour vous. Et à moins de démissionner ou de partir, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et souvent, je pense que c'est bien d'avoir ce genre de pensée, cette communication, mais comme la population n'est pas prête à l'accepter, vous passez un peu pour un ovni. Et vous, comment ça s'est passé quand vous avez souhaité le mettre en application du coup ?
Mais en fait, dans mon entreprise, au début, c'était pas du tout comme ça. Et puis, j'ai commencé à mettre ça en pratique avec aucune intention particulière. À la base, mon objectif, c'était essentiellement par rapport à mes enfants. Parce que j'étais en séparation, tout ça, et avec les enfants, ça a été compliqué. Je me suis dit, bon, là, il faut trouver quelque chose. Et cet outil a été vraiment bien parce que ça a permis à mes enfants d'exprimer ce qu'ils vivaient dans cette séparation, comment leurs besoins, et puis d'avoir une relation avec eux qui était plus harmonieuse et puis qui était à la fois bien pour moi et pour eux. Donc c'était à la base d'abord dans un cadre personnel. Et puis après, en fait, comme on change, ben, on change... On a envie d'être comme ça tout le temps, parce que je ne me disais pas, allez, je vais mettre une autre casquette quand je vais au travail. Et à un moment, je me disais, ouais, ça va être compliqué dans l'entreprise où je suis. Donc effectivement, moi, je me suis questionné en me disant, il faut que j'aille dans une autre entreprise, etc. Mais après, en fait, je ne vise pas que la CNV, j'ai d'autres outils dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, ce que j'ai envie, c'est d'être moi-même, puis je fais confiance à la vie, en fait. C'est peut-être bizarre hein, de dire ça comme ça, mais à un moment, il faut vraiment faire confiance à la vie. Et la vie, du coup, j'ai eu cette confiance, a ouvert des portes, et puis à chaque fois qu'en fait quelqu'un avait une attitude comme ça qui peut être difficile, grâce à notamment à la CNV, je me disais, ben, ok, là il est en train de me donner un cadeau. Il a le droit d'être agressif, il vit sa vie, je ne sais pas de le changer, mais là il me fait travailler un truc. Ok, j'essaie de le travailler, puis après c'est fun parce que je vais revoir cette personne, et puis elle appuie plus sur cet indicateur. Ou alors des fois elle appuie, puis je me dis, ah tiens, ah ça réagit plus, super, merci. Et puis petit à petit ça change, et en fait... C'est vraiment un travail profond, sincère, d'avoir aucune envie de changer l'autre ou l'entreprise, d'être juste soi, en fait. Et après, en fait, comme il n'y a vraiment pas de volonté de changer, ben, les autres, ils s'ouvrent, en fait, petit à petit, puis ça devient une habitude, puis ils prennent l'habitude de ça, puis ils disent, tiens, voilà, comme je n'ai pas envie de changer, les gens, à un moment, ils me disent, putain, c'est sympa ton truc, c'est quoi, en fait, que tu fais, là ? Je dis, ben voilà, je fais ça, et puis, du coup, on m'a dit, ben tiens, tu ne pourrais pas faire un truc comme ça dans l'entreprise, une présentation, donc j'ai fait une présentation, puis etc., etc. Et il y a des trucs étonnants qui sont passés. Au niveau de mes hiérarchies, pouf, ils sont tous partis, enfin, il y a une restructuration, des nouveaux responsables, et puis du coup, ça se passe mieux. Alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais je comprends qu'effectivement, et je le vois aussi hein, dans d'autres entreprises, être soi, être vraiment soi, ça gêne beaucoup les autres. Parce que ça leur montre qu'ils ne sont pas forcément eux-mêmes, et c'est difficile. Mais après, c'est un courage d'exprimer ce qu'on est vraiment, en fait. Est-ce que vous avez envie de continuer à vous masquer des choses à être dans... Après, je vous l'accorde, c'est difficile. Après, il faut se dire, oh, mais je change d'entreprise, mais ce n'est pas facile. Enfin, y a plein de peurs qui arrivent. Mais, c'est pour ça que je disais bien au début, c'est important, c'est d'être confiant et d'avoir du courage, en fait. Puis après, vous verrez, la vie se débrouille. Enfin, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais je parle de ce que je vis. C'est, voilà. Ben, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée.